L'Épître aux Galates, chapitre 3. On va lire ensemble ce matin les versets 1 à 14 dans Galates au chapitre 3. Dans Galates 3, verset 1, Paul dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier pour la grâce que nous avons dans cette Église, de pouvoir chanter tes louanges, de pouvoir célébrer ton Évangile et de pouvoir en parler avec la musique. Merci pour les dons que tu as donnés. J'ai été touché, Seigneur, de savoir, même si je travaille avec cette équipe depuis plusieurs années, de voir les dons que tu donnes à l'Église pour qu'un chant, un tel chant puisse être appris en une semaine. Wow! C'est à ta gloire, Seigneur. C'est à ta gloire. Et on veut te dire merci. Merci parce que dans ton Église, tu as donné des dons et nous formons un corps pour être unis ensemble pour l'Évangile, pour la prédication de la foi, pour que les gens viennent à toi, trouvent en toi la bénédiction que tu avais promis à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en toi, en lui, par Jésus-Christ. Seigneur, on voit dans ce passage que l'Évangile, on doit l'accepter par la foi. Et que ta bénédiction, on peut y goûter lorsqu'on place notre foi en toi. On peut y goûter maintenant, mais on peut la goûter aussi de jour en jour. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses nous faire goûter ta bénédiction, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, et que ton esprit remplit nos cœurs, afin qu'on puisse être bénis par toi ce matin, en regardant ta parole, ses principes, ses merveilles que tu nous as laissées, qu'elles soient délicieuses à nos cœurs et que par elles nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Conduis-moi dans ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. De semaine en semaine, je me présente devant ton peuple, devant ton Église. Ce n'est pas mon Église, Seigneur, c'est la tienne. Et je veux, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs et que ce ne soit pas ma parole, mais la tienne qui touche. Et que ton esprit ravive ceux qui sont en sécheresse spirituelle et qu'ils puissent retrouver la vie en toi, Seigneur. Bénis-nous ensemble. Ce passage est merveilleux. qu'on puisse vraiment trouver en toi, Seigneur, notre joie ce matin, notre bonheur. Dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Le chant qu'on a entendu pendant le temps des offrandes exprime bien la désolation qu'on peut vivre devant ce monde qui tourne, mais qui semble aller nulle part. Des hommes et des femmes qui recherchent la sagesse, l'intelligence pour obtenir le succès, mais qui, au fond, malgré tous ces efforts, souffrent de cette vie difficile. Les gens cherchent à acquérir des connaissances, une sagesse qui va les amener à un certain confort, mais finalement, profondément, trouvent la vie difficile. Des hommes et des femmes qui recherchent le bonheur dans la vie, mais qui, au fond, ont du mal à trouver ce bonheur-là. Des hommes et des femmes qui vivent et commettent des injustices sans avoir égard à un avenir où ils feront face à Dieu. Charles, tu l'as mentionné, puis en lisant, on ne s'était pas parlé, mais c'est ce que j'ai dans mes notes. En lisant ton chant, le chant que vous avez écrit, ce chant me faisait penser aux paroles de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Et je pense que c'est les paroles qui t'ont inspiré. L'Ecclésiaste dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Lorsqu'on lit les premiers chapitres de l'Ecclésiaste, regarde la vie, le monde, comment il tourne, finalement, où ça va ça? Qu'est-ce que je vais emporter à la fin de cette vie? Absolument rien. Je suis poussière, je vais retourner poussière. Tous les efforts, les travaux que j'aurai faits pendant cette vie vont s'évanouir lorsque je vais mourir et je vais le laisser à celui qui est derrière moi. Qu'importe les efforts qu'on a à faire, on n'emporte rien à la fin. On laisse derrière nous ce pour quoi on a tant travaillé. Et devant la réalité de ce monde qui nous entoure, on n'est pas les seuls à observer ça. Ce monde qui tourne, le temps passe. Devant cette réalité qu'un jour mes jours arriveront à leur fin, on ne peut pas rester sans se poser la question. Pourquoi tout ça? Pourquoi le monde est monde? Pourquoi le monde est là, présent, et que finalement, tout s'évanouit, tout disparaît, et j'emmène rien avec moi? Pour nous, les chrétiens, on croit que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu nous a laissé ses réponses du pourquoi. Et pourquoi de la vie que tout être humain peut se poser par rapport à le monde qui l'entoure, cette vision du monde qu'il a. La Bible nous donne des réponses précieuses à ces questions-là. Mais ne nous arrive-t-il pas, de temps en temps, même si on croit en Dieu, de nous poser les mêmes questions? Lorsqu'on vit des épreuves, des situations difficiles, les mêmes questions reviennent à nos cœurs. Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que Dieu est réellement là pour moi? Je crois en Dieu, mais qu'est-ce que ça change exactement? La foi en Dieu ne semble pas changer grand-chose dans ma vie. Des fois, au fond des épreuves, au fond des moments difficiles, on en arrive aux mêmes questions. Gloire à Dieu, je le dis encore, il nous a laissé sa parole. Puis on peut apprendre dans le passage de ce matin que le monde tourne, mais que contre toute apparence, il ne s'en va pas nulle part. On voit que Dieu a un plan parfait pour l'humanité, qu'il a mis à exécution pour qu'on puisse trouver notre joie en lui, notre bonheur en lui. Son plan a commencé avec la création du monde et Dieu est en train d'exécuter son plan. Plusieurs choses se sont accomplies et il continue de les accomplir. Et si pour nous ça semble aller nulle part, pour Dieu ça ne s'en va pas nulle part. Parce que Dieu a un plan parfait. Pour le monde, pour l'humanité. Dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Galates, on a vu Paul qui défendait son ministère d'apôtre, qui défendait l'Évangile en parlant de son expérience, de ce qu'il a vécu, sa conversion, son appel comme apôtre, ses échanges avec d'autres apôtres. Et là, on arrive dans une nouvelle section, le chapitre 3, chapitre 3 et 4, dans les deux prochains chapitres. On va voir que pour argumenter et dire « Voici l'Évangile et la vérité », l'Évangile s'accepte par la foi seule en Jésus-Christ, va puiser dans les Écritures, dans le plan que Dieu a révélé autrefois, pour trouver les réponses et dire, la foi en Jésus-Christ, c'est pas seulement basé sur mon expérience, mais c'est basé sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu a faites dans le passé et qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Dans le chapitre, on voit que Paul va faire référence à Abraham et comment Dieu a commencé à mettre en exécution son plan en Abraham. Et le plan parfait de Dieu, c'est que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi en Jésus-Christ nous donne accès à la bénédiction complète de Dieu. Dieu a un plan, il veut nous bénir, il veut notre bonheur, et cette bénédiction-là surpasse toute attente et toute espérance. Et c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on trouve les bénédictions complètes de Dieu. Et on voit à travers ce passage trois bénéfices de la foi en Jésus-Christ. Premièrement, on reçoit l'Esprit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes considérés comme justes devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la malédiction. Trois bénéfices que nous voyons dans ce passage, que nous allons survoler ensemble et que nous allons découvrir comment Dieu nous bénit et que cette bénédiction-là est complète pour notre bonheur par la foi en Jésus-Christ. Premier bénéfice, par la foi en Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu. Dans les versets 1 à 5, c'est ce qu'on voit. Paul va argumenter avec les Galates, va poser des questions. Au total, je crois qu'il y a 6 questions que Paul va établir et questionner les Galates parce qu'ils se sont éloignés de l'Évangile. On l'a vu dans les derniers chapitres, dans les dernières prédications, les Galates s'étaient éloignés de l'Évangile. Et puis, Paul va être un peu tough avec les Galates, et peut-être avec nous aussi. Il va les traiter d'insensés. Bande de stupides. J'allais dire d'autres choses. Gang de caves. Bande de stupides. Qui vous a appris à vous détourner de l'Évangile? L'esprit que vous avez reçu, c'est-tu arrivé par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et tout ce que vous avez vécu en Jésus-Christ, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-tu venu par les œuvres que vous avez accomplies ou parce que la foi en Jésus-Christ vous a été annoncée? La réponse n'est pas donnée dans le passage. Les questions, la réponse à la question est sous-entendue. Dans le sens, c'est par la prédication de la foi, voyons, que le bénéfice de l'Esprit de Dieu est venu. Le bénéfice de l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple, auprès de son peuple. On a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Dès le début de la Genèse, Dieu déjà révèle son plan. La création, Dieu crée, Dieu place l'homme et la femme dans un jardin où ils ont une relation parfaite avec Dieu. Ils sont nus même devant Dieu, ils ne s'en rendent même pas compte. Une relation intime, sans gêne avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a voulu pour l'homme, la femme. Une relation parfaite dans la présence de Dieu. Et à travers toutes sortes de choses dans nos vies, on essaie de combler un vide qui est venu après la chute. Où l'homme a été séparé de Dieu et ne vit plus présentement à cause du péché dans la présence de Dieu, ne vit plus la présence de Dieu en raison du péché. Et il y a ce vide que les hommes recherchent et ils regardent la vie et où ça mène tout ça. C'est quoi la réponse? Dieu veut te bénir de sa présence parce que tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Les Écritures nous donnent cette réponse-là. Les réponses à nos questions viennent par la présence de Dieu dans nos vies. Ce qui te comble réellement, ce qui peut réellement nous combler, c'est quand Dieu vient entrer dans nos vies et par l'Esprit de Dieu, Dieu vient le faire. On voit dans l'Ancien Testament que c'était le soupir des hommes d'être dans la présence de Dieu. On voit le roi David pousser ce soupir qu'on a lu ce matin dans le temps de prière. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs. Je veux habiter dans la maison de mon Dieu. » Parce que je sais que c'est là que je suis béni. Je veux être dans la présence de Dieu. Et on voit dans l'Ancien Testament que Dieu avait tranquillement commencé à restaurer la relation entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse vivre cette présence avec Dieu. Et ça a commencé avec Abraham. Ensuite de ça, avec Moïse, où la loi a été donnée. Et comment Dieu allait rencontrer et visiter son peuple et venir manifester sa présence. Et Dieu allait habiter au milieu de son peuple. Mais c'était un accès limité. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait le temple avec différentes sections. Et Dieu habitait dans le lieu très saint. Et c'est seulement une fois par année que le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu avait donné une promesse. Il avait dit, un jour, par la bouche de ses prophètes, il a dit, « Je répandrai sur eux mon esprit. » Et Dieu n'habitera plus dans une maison faite de mains d'hommes, mais va habiter dans les cœurs pour que je puisse habiter au milieu de mon peuple. Ce à quoi on aspire, la présence de Dieu dans notre vie, Dieu l'a accompli en envoyant son esprit. Et maintenant, on peut vivre cette bénédiction d'être en relation avec Dieu et de vivre parfaitement une relation avec lui par son esprit qui vit en nous. Dans l'Ancien Testament, tous les hommes aspiraient à être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, on voit dans Galates 1 à 5 que par la foi, on reçoit l'Esprit de Dieu et on peut jouir de ce bonheur, de cette bénédiction d'être dans la présence de Dieu par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Dans l'Ancien Testament, personne n'a reçu l'Esprit de Dieu par l'observation de la loi. Au contraire, l'Esprit de Dieu était donné à ceux que Dieu avait choisis. Puis même les Galates, en fait, dans le passage, savent très bien qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu avant de croire en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ a amené la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans le cœur des croyants. Et c'est une bénédiction dont on peut bénéficier par la foi en Jésus-Christ. L'œuvre que Christ a accomplie me donne accès à la présence de Dieu et Dieu vient faire sa demeure en moi pour que je puisse vivre cette relation intime. Restaurer cette relation qui avait été brisée au commencement et être réconcilié avec Dieu pour vivre la présence de Dieu. Ce vide que je cherche à combler, Dieu qui vit en moi par son esprit. Par la foi en Jésus-Christ, on reçoit ce bénéfice-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Il continue de faire sa demeure en nous. Dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 13 à 14, on peut lire, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Dans Éphésiens, Paul donne la réponse aux questions qu'il pose aux Galates en l'affirmant. « Par la foi, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, maintenant, vous avez été scellés. L'Esprit de Dieu demeure en vous et vous avez maintenant un gage. Vous avez la confirmation en vous que vous allez hériter de la présence de Dieu pour toujours. » Gloire à Dieu! Dieu nous donne son Esprit qui convainc notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Des fois, si je me pose des questions sur est-ce que Dieu m'aime vraiment, je retourne à sa parole et l'Esprit de Dieu prend ces paroles-là et me confirme. Oui, j'ai cru en Jésus-Christ. Oui, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Puis oui, j'ai la vie éternelle. Puis j'ai le bonheur de la présence de Dieu aujourd'hui, continuellement. Et lorsque je suis au milieu de ces épreuves-là où je me demande où c'est que ça s'en va tout ça, Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai cette bénédiction par la foi. Les Écritures me témoignent que l'Esprit vit en moi et que Dieu est présent. Peut-être que tu vis une situation difficile où tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu t'a complètement oublié. Ça fait des années que je prie pour quelque chose, puis Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me répond pas à ma prière. Dieu ne répond pas à ma prière, puis ça me donne quoi de prier finalement? Ça fait des années que je fléchis le genou devant Dieu pour que Dieu sauve mon fils, Dieu sauve ma fille, Dieu sauve mon époux, mon épouse. Puis je n'ai pas de réponse. Je ne vois rien se passer. Dieu n'est pas là. Sinon, il ferait quelque chose. Mais la parole de Dieu nous dit que non, Dieu est là. Il est avec toi. Puis, il t'apporte ce réconfort dans cette épreuve. Il n'a pas répondu encore à ta requête. Mais il est là. Il n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que tu étais scellé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi, puis il est encore là, présent chaque jour, avec toi. Et en s'appuyant sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous donne, on a cette bénédiction de se rappeler que l'Esprit de Dieu est continuellement avec moi. Et que même si j'ai des réponses, j'attends des réponses encore à mes prières. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est là avec moi et je peux jouir la présence de Dieu chaque jour. Je peux trouver mon réconfort en Dieu. Puis je peux être soutenu dans ma marche pour sa gloire. Donc c'est une grande bénédiction que le Seigneur accorde à ses enfants. Sa présence dans nos cœurs, chaque jour, chaque instant. Cela vient au moment où on place notre confiance en Jésus-Christ. Et non lorsque nous cherchons à entrer en relation avec Dieu par nos propres forces. Pour jouir de la présence de son esprit, nous devons prendre le bon moyen. Si je veux entrer en relation avec Dieu et jouir de sa présence chaque jour, le bon moyen, c'est par la foi en Jésus-Christ que je reçois l'Esprit de Dieu. C'est le premier bénéfice de la foi en Dieu. Le deuxième, dans les versets 6 à 9, on voit que nous sommes, par la foi en Jésus-Christ, considérés comme justes devant Dieu. Versets 6 et 7, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Et donc, Paul va passer de l'argument de l'expérience. Une expérience, vous avez reçu l'Esprit de Dieu quand vous avez entendu la prédication de la foi. Il n'y a pas juste moi qui ai vécu cette expérience-là, vous aussi vous l'avez vécu. Et passe de son argument de l'expérience qu'ils ont vécu lorsqu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils ont vu Dieu agir, ils ont vu des transformations dans leur vie, même des miracles se passer. Et se tourner vers, voici ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Et comme Abraham a cru à Dieu et que cela fut imputé à justice, vous aussi reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Les Galates est influencé, comme on l'a mentionné, par des Juifs qui essayaient d'influencer les Galates à ajouter à ce que Christ avait accompli en observant la loi. Et Paul dit, finalement, tu dis que tu es un fils d'Abraham parce que tu es un Juif, tu es de la descendance d'Abraham. Mais Dieu n'a pas sauvé Abraham avec la loi n'existait même pas. Il l'a sauvé par la foi. Alors pourquoi veux-tu retourner à la loi si le père de la nation d'Israël a été sauvé par la foi? Voici, vous aussi, vous allez être sauvés par la foi. Ça ne donne rien de retourner à la loi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Abraham a eu la foi. Ça n'avait pas, et le verset 6 nous dit pas que Abraham crut en Dieu. Abraham crut à Dieu. En d'autres mots, Abraham a entendu la parole de Dieu, il a cru ce que Dieu dit. Dieu lui a donné sa parole, lui a donné une promesse, et il a cru Dieu. Ça peut nous arriver, nous on croit en Dieu, on croit que Dieu existe, que Dieu a manifesté son amour envers nous, qu'on est délivré de nos péchés par la foi en Jésus-Christ, on croit ces choses-là, on croit en Dieu, on croit en son œuvre. Mais est-ce qu'on croit Dieu réellement? Quand Dieu nous donne ses promesses dans les Écritures, Est-ce qu'on croit réellement ce que Dieu dit? Lorsque je me tourne vers la parole de Dieu, que je vois dans les psaumes David se confie en l'Éternel pendant son malheur, je vois que David croit Dieu. Mon libérateur, mon rocher, mon sauveur, celui qui me délivre de mes ennemis. David croit que Dieu est là, est présent. Il ne fait pas juste croire en un Dieu distant, mais croit ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'Abraham a cru. Dans Genèse 15, on voit son récit. On peut aller lire quelques versets dans Genèse chapitre 15 pour voir la foi d'Abraham, que ce n'était pas simplement une foi. C'était une foi, en fait, c'était une foi simple. La foi d'Abraham était une foi tellement simple, la foi d'un enfant. Abraham avait environ, peut-être un peu plus que 75 ans, lorsqu'il a entendu la parole de l'Éternel et que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Genèse 15, verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur, que me demanderas-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Abraham a eu confiance à ce que Dieu dit. Un vieux bonhomme de 75 ans passé, une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Ça prenait de la foi pour croire ça. Vraiment. Je veux dire, je commence à être fatigué un peu, puis je ne suis pas sûr que je vais avoir une grosse postérité rendue à mon âge. Mais le pire, c'est qu'il a attendu 20 ans plus tard avant de voir la postérité. Mais Abraham a cru Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui a imputé à justice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'imputer à justice? En fait, c'est comme si on avait un compte en banque en souffrance, une dette incalculable, une injustice incalculable devant Dieu. Et nous sommes tous, à cause de nos péchés, devant Dieu, avec une injustice et une dette non remboursable, impossible de rembourser. Tu aurais beau faire tout ce que Dieu dit, tu ne seras jamais capable de rembourser cette dette-là. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que par la foi en lui, cela puisse nous être imputé à justice. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Jésus a payé la dette à ma place et mon compte a été crédité. Ou plutôt, ouais, ça doit être ça, le terme. En tout cas, débité, crédité, on regarde. Ah, je ne suis plus dans le rouge. Hein? Mon compte est à zéro, puis je ne dois plus rien. Puis c'est ça, imputé à justice. C'est que mon injustice était incalculable, mais par la foi en Jésus-Christ, parce qu'il a accompli pour moi, Dieu l'impute sur mon compte, puis dit, payé, tu n'as plus de dette envers moi. Tu es maintenant juste devant moi. Tu parais comme juste à mes yeux. Tu n'es pas juste, mais tu parais comme juste à cause que Jésus t'a crédité sa justice. Il te l'a donné. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que cette justice-là nous est imputée sur nous, pour qu'on puisse recevoir la vie éternelle, non pas recevoir ce qu'on mérite, mais recevoir la bénédiction. Et c'est par la foi en Jésus-Christ seul qu'on vit cette bénédiction de avoir nos péchés pardonnés et d'entrer en relation avec Dieu. Je ne pouvais pas recevoir l'Esprit de Dieu si Christ n'avait pas accompli ça pour moi. La justice de Dieu, Christ l'a accomplie, est imputée sur mon compte. Et maintenant, à cause de Jésus-Christ, je peux vivre le bonheur de la présence de Dieu et recevoir la bénédiction de la promesse. Boy, le temps passe vite. Mais on avance. Le point ici, c'est dans un sens, ce que Dieu veut, c'est qu'on place notre foi en lui. Pour que si on veut réellement paraître juste devant lui, si je veux effacer ma dette, je dois placer ma confiance en Jésus-Christ seul pour effacer ma dette. Et ça, c'était la bénédiction que Dieu avait annoncée à Abraham dans les versets 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Les païens, c'est nous, les non-juifs. Dieu avait prévu ça d'avance, qu'il allait justifier les païens par la foi. A dit à Abraham, la bonne nouvelle, toutes les nations vont être bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Abraham a cru en premier, et moi je viens me placer comme un enfant d'Abraham, pas à cause que je suis de la descendance d'Abraham, mais parce que j'ai eu la foi comme lui. Et donc, les enfants d'Abraham sont ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais un troisième bénéfice qu'on a reçu, on voit dans les versets 10 à 14, c'est qu'on a été sauvés de la malédiction de la loi. Paul continue son argument en se basant sur les Écritures, et dans le reste du passage, il va citer plusieurs passages de l'Ancien Testament, entre autres de la loi. Il va citer quatre versets de l'Ancien Testament pour appuyer son argument de la justification par la foi seule. Premièrement, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que la désobéissance à la loi attire la malédiction et le châtiment. Verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, si je veux me confier dans la loi pour paraître juste devant Dieu, ça ne donne rien. Parce qu'il faut que je l'obéisse à la loi parfaitement. Plus de 400 sentences que Dieu a données, à laquelle je ne dois jamais désobéir à une seule. « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc, si j'ai manqué une seule fois, maudit, pas d'accès à moi, pas d'accès à ma présence, parce que tu as désobéi à ma loi. Dieu a donné sa loi et un Dieu parfait doit faire respecter sa loi. Si notre société fonctionnait sans que la loi soit respectée, ça irait pas bien. Puis déjà, ça va pas bien. Ça prend tout un contrôle pour réussir à faire observer la loi. Puis on n'aime pas ça, voir des injustices. Écoutez la commission Charbonneau, on en entend parler depuis assez longtemps, que je sais qu'il y a eu des injustices. Si on veut vivre dans un monde parfait, avec un Dieu parfait, l'injustice ne peut pas être tolérée. Et une seule injustice doit recevoir la malédiction, la condamnation qu'elle mérite. Sinon, ce ne serait plus le monde parfait que Dieu veut. La relation parfaite de jouir du bonheur de sa présence. Et en fait, mes gars jouent au baseball, puis on apprend les rudiments du baseball. Après trois prises, t'es retiré. Avec la loi, une prise, t'es retiré. Puis tu ne reviendras pas au bâton. Essaye pas, tu ne swingeras pas à la balle. Tu ne seras pas capable. Tu es sous la malédiction. C'est une petite image ici. Mais une seule désobéissance fait que je n'ai pas obéi à toute la loi et je suis sous la malédiction. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que Dieu a donné son Fils unique. Jésus-Christ a volontairement été maudit par Dieu à notre place. Les versets 12 et 13. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. On ne pouvait pas vivre par la loi, parce qu'on n'a pas été capable de mettre tout en pratique. Si j'avais pu mettre tout en pratique, j'aurais pu vivre, j'aurais pas été coupable d'injustice, mais le problème, c'est que personne a été capable de la suivre, sauf un, que lui, il a mis la loi en pratique et il l'a vécu parfaitement, Jésus-Christ. Verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction reposait sur nous. À la croix, Christ nous a rachetés de la malédiction qui pesait sur nous en recevant la malédiction qui est tombée sur lui. Christ a été maudit par Dieu à ma place. Le Fils de Dieu, celui en qui Dieu avait mis, le Père avait mis toute son affection, il l'a envoyé pour être maudit à ma place. Dieu a maudit son Fils pour moi. Puis sur la croix, Christ s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La relation la plus parfaite qui existait dans tout ce qui existe, brisée à cause de la malédiction qui pesait sur moi, elle est tombée sur Christ. Et Dieu a dit, « maudit! » C'est pour moi que Christ l'a fait. Par amour pour moi. Il a dit, « Père, je vais obéir à ta volonté. Tu veux avoir des fils et des filles dans toutes les nations? Je vais y aller. Je vais mourir pour à leur place. Et je vais supporter d'être abandonné par toi pour que les autres soient sauvés. » Ésaïe 53. Je veux qu'on prenne le temps d'aller lire ce passage-là. Je sais que le temps avance, mais je veux qu'on prenne le temps d'aller lire ce passage-là pour voir exactement la souffrance que le Seigneur Jésus a portée pour nous à la croix. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru Dieu? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. À la croix, Jésus a reçu le châtiment qui me donne la paix avec Dieu. Il est tombé sur lui. La crucifixion était nécessaire pour qu'on puisse avoir la bénédiction. Si je voulais jouir d'une présence, de la présence de Dieu dans ma vie pour toujours, Christ devait recevoir la malédiction à ma place. Christ devait souffrir la condamnation pour moi. Et c'est ça le troisième bénéfice de la foi en Jésus-Christ, c'est que la malédiction ne repose plus sur nous, mais elle nous est complètement enlevée. On est sauvé de la malédiction de la loi. La bénédiction que Dieu avait promise, sa présence dans nos cœurs par l'Esprit, a été entièrement rendue possible parce que Jésus-Christ a reçu la malédiction à ma place. En considérant ce que Christ a accompli, vas-tu rejeter sa grâce en continuant de t'appuyer sur tes propres forces, sur l'observation des commandements pour entrer en relation avec Dieu, considère que Christ te donne sa justice parfaite pour ton injustice. Tu peux être sauvé, sauvé de la malédiction de la loi qui repose sur toi et jouir de la présence de Dieu dans ta vie pour le reste de tes jours et pour l'éternité. Pour cela, tu as besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ pour goûter la bénédiction complète de Dieu. On doit placer notre foi en Jésus-Christ seul pour notre salut, parce que Christ a tout accompli. La foi en Jésus-Christ nous procure les plus grandes bénédictions qu'on pourrait jamais recevoir. La malédiction ne repose plus sur moi, mais Christ l'a reçu à ma place. Christ m'a donné sa perfection, qui fait en sorte que moi, un injuste pécheur, je parais juste devant Dieu. Et par-dessus tout, nous pouvons recevoir le bénéfice de la présence de Dieu dans nos cœurs par l'Esprit qui habite en nous. Maintenant, je sais que Dieu est près de moi parce que sa parole me le dit. Quand je pense que Christ est, que Dieu est loin parce que je vis des épreuves, je peux me confier dans sa parole qui me dit, mon Esprit habite en toi, puis je suis là et je te soutiens à travers ces épreuves-là. En même temps, on veut être une bénédiction pour toutes les nations, nous aussi. On veut annoncer au monde entier que la bénédiction complète de la présence de Dieu est offerte. Et on veut accomplir cette promesse-là à travers ce que Dieu fait, que toutes les nations vont être bénies en Abraham. On va voir la semaine prochaine que la bénédiction, la descendance d'Abraham, c'est Christ par la foi. Les gens reçoivent la bénédiction d'Abraham. Nous sommes de toutes les nations et nous avons connu Jésus-Christ, mais on veut continuer cette œuvre-là jusqu'au retour du Seigneur, d'annoncer dans toutes les nations ce que Christ a souffert pour nous qu'on soit paraisse juste devant Dieu et qu'on soit sauvé de la malédiction de la loi. Christ a tout accompli et on veut jouir de la présence de Dieu dans nos vies. Croyons fermement la parole de Dieu, frères et sœurs. Vivons chaque jour le bonheur de sa présence dans nos cœurs, le plus grand bonheur qui existe. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur Jésus, il est grand le châtiment que tu as porté pour moi. Toi, le Fils de Dieu, le Fils unique, celui en qui Dieu avait mis toute son affection, qu'il l'aimait comme son cher fils, a été donné pour nous, et tu t'es livré pour nous à la croix, pour nous délivrer de la malédiction de la loi, de notre injustice, pour nous donner ta justice. Seigneur Jésus, ce cadeau-là est tellement grand. Merci d'avoir racheté ma vie, de m'avoir pardonné de mes péchés et de m'avoir donné la vie éternelle. De m'avoir donné ton esprit qui vit en moi de jour en jour et dans lequel je peux être confiant que tu n'es pas loin, mais que tu es là avec moi chaque jour. Je peux compter sur le bonheur de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce bonheur-là de jour en jour en étant affirmé dans ta parole. Ta parole qui nous dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce privilège-là, on veut le partager. On veut que le nom de Jésus soit élevé dans toutes les nations et que les gens viennent à toi pour te connaître et jouir du bonheur de ta présence. Fais de nous une église qui vit ce bonheur et qui le partage autour de nous. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.